Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'inspirer et aussi t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je te propose de découvrir l'histoire d'Ahmed. Il est d'origine égyptienne et il est arrivé en France pour ses études et n'est plus jamais reparti. Il a construit sa famille, mais avec lui, on parle évidemment de l'exil, de devoir tout reconstruire quand on arrive dans un nouveau pays et surtout de se refaire des amis, des amitiés pas toujours durables et des interprétations culturelles qui varient entre les deux pays. L'amitié n'a pas le même sens. Ahmed, il est aujourd'hui toujours à la recherche d'un équilibre entre la famille et l'amitié. J'espère que cet épisode te plaira puisqu'il est un petit peu différent. On parle de l'amitié en général dans sa globalité. Et si tu veux en savoir plus sur le travail d'Ahmed, il a lui aussi lancé son podcast, l'Arabe 28 lettres en podcast. Le lien, tu le trouveras dans la description de l'épisode. Et puis évidemment, tu connais la chanson. Si l'épisode te plaît, partage-le sur Instagram. C'est aussi là-bas que tu peux m'écrire si tu as des retours, des questions ou des envies pour Friendship. Et puis sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like one, two. I'll be
there. You can count on me, cause I can count on you. Et à quoi ça sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami.
Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Ahmed. Et je le reçois aujourd'hui pour parler donc évidemment de l'amitié, on est sur Friendship. Déjà, bonjour Ahmed.
Bonjour Solène.
Merci d'être avec moi, enfin je le reçois mais c'est lui qui m'accueille chez lui quand même, on va remettre les choses en place. Déjà pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour qu'on te connaisse, voilà, un petit peu savoir qui tu es.
Merci Solène pour l'invitation, je suis Ahmed Galal, franco-égyptien, j'ai 37 ans, papa de deux garçons et professionnellement je suis traducteur interprète dans une boîte ou société parisienne et en parallèle j'enseigne à l'université une fois par semaine ou un jour par semaine. Et accessoirement, en parallèle, j'ai un podcast qui s'intitule 28 lettres, l'arabe en podcast, mais peut-être on va en parler ultérieurement. Et je suis très ravi de cette invitation pour parler amitié et ami avec toi, Solène, dans ce podcast.
Oui, c'est vrai que c'est toi qui m'as contactée. J'avais lancé donc un peu un appel pour trouver des témoignages différents. Et toi, tu m'as dit tout de suite, moi j'ai une histoire un peu particulière, j'ai un peu fait le vide autour de moi, j'ai plus beaucoup d'amis. Déjà, quel était ton rapport à l'amitié quand t'étais en Égypte? Parce que du coup, tu l'as dit, t'es arrivé en France à 22 ans, donc t'as quand même eu 22 années de ta vie avant en Égypte. Et où peut-être aussi la culture est différente, peut-être qu'il y a plus de place pour la famille que pour les amis.
Effectivement, en Égypte, mon pays de naissance, j'avais beaucoup d'amis et on a toujours l'habitude d'avoir un cercle d'amis différent dans chaque endroit, c'est-à-dire un cercle d'amis à l'université ou à l'école, un cercle d'amis du voisinage dans le quartier, un cercle d'amis familial, c'est-à-dire les cousins, les cousines, leurs amis.
En fait, tout le monde, c'est vos amis.
Exactement. Exactement. En fait, ça peut commencer par une relation professionnelle et oui ou non, on devient des amis après. Donc, c'est vrai que, comme tu viens de dire, la culture, la vie sociale joue un rôle primordial dans le monde arabe ou dans les sociétés arabo-musulmanes. Chose un peu différente ici, dans les sociétés ou nos sociétés européennes, où les actions ou l'action du quotidien est axée sur l'individu et ses agissements au sein de la société et non pas l'inverse.
Oui, mais c'est vrai que du coup, en Égypte, peu importe qui tu peux croiser dans la rue, ça va être ton ami. Enfin, c'est un peu le frère musulman et l'ami qu'on croise, même si on le connaît pas tant que ça.
J'ai envie de dire qu'il y a une certaine facilité dans les relations professionnelles. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est assis à côté de toi dans le bus ou dans le métro, vous pouvez avoir très facilement une discussion assez vite, on va dire, sur des sujets, on va dire, plus personnels, sur ta profession, ton métier ou tes études, où tu vas, par exemple, pour ce trajet, pourquoi, est-ce que c'est la première fois ou pas. Et ce n'est pas du tout... Enfin, il y a une partie de la curiosité, mais il y a aussi une partie de la familiarisation assez rapide. C'est-à-dire, s'il est de ce quartier ou pas, il va te conseiller, par exemple, de descendre ou de prendre telle sortie, de ne pas marcher dans cette rue parce qu'il y a une déviation, il y a des travaux. Très spontané et très bienveillante aussi. Je suis mal placé pour le dire, mais c'est
et du coup, est-ce qu'en arrivant en France, ta définition de l'amitié a changé? Parce que en Égypte, comme t'en parles, l'amitié, c'était tout le monde avec qui finalement on peut discuter. C'est pas forcément un petit cercle qu'on choisit. C'est vraiment des gens avec qui on peut discuter au quotidien. C'est des amis. Est-ce que en arrivant en France, ta définition, elle a changé là-dessus?
Oui, complètement. Mais ça n'a pas changé tout de suite parce que j'étais confronté à l'étape de découverte et qui dit découverte dit désillusion et parfois déception. J'étais toujours confronté à la, on va dire, pas de rejet, mais à l'indifférence, si tu veux, au comportement assez, on va dire, chaleureux, bienveillant, tout le monde. On est à la fac, donc on peut sortir ensemble, on peut boire un verre après les cours, etc. Et ça se passe pas comme ça avec tout le monde ici en France. Enfin, il n'y a pas la même facilité. Il y a toujours, malheureusement, et je regrette, il y a plus de barrières que de facilités. Bien sûr, la définition a changé, mais au bout de quelques années. Et il n'est pas toujours défini. Pour moi, c'est difficilement déterminable. J'arrive pas à comprendre, malgré les années, pourquoi telle personne réagit comme ça ou pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Il y a toujours des interrogations.
Ça vient de la culture qui fait qu'en France, on garde un peu plus pour soi, on s'exprime peu sur notre vie privée, à part quand on est dans un cercle de confiance avec ses amis proches, ou ça vient d'autre chose, tu penses, qui fait que c'est plus difficile de trouver sa place?
Ici, on garde pour soi, il y a toujours une certaine réticence, certaine distance ou distanciation, mais aussi... Il y a le cadre général de la vie, le boulot, les occupations personnelles, donc qui nous laisse peu de temps à avoir des amis ou même à tisser des liens qui peuvent aboutir à des amitiés. Déjà, en fait, on est malheureusement mal barré parce que on n'a pas l'échantillon. Comme par exemple, mon père avait 2-3 amis qui ont commencé à se faire connaissance en collège. Ils sont restés jusqu'à la fin de leur jour. J'ai vécu.
Et du coup, c'est peut-être aussi parce que toi, t'es parti, parce que ces amis-là du collège et du lycée en Égypte, du coup, t'as essayé de garder contact avec eux. Comment ça s'est passé quand t'es parti en France, que t'as vécu cette sorte d'exil en fait de ton pays d'origine? Comment ça s'est passé pour garder contact avec eux? Parce que Faut remettre dans le contexte, quand t'es arrivé en France, Facebook n'existait pas, les réseaux sociaux c'était encore pas d'actualité. T'as dû tout recommencer à zéro, comment ça s'est passé ?
Alors oui, effectivement, il y a plusieurs étapes. Quand je suis arrivé, j'avais même pas une ligne téléphonique, donc on parlait pas d'annuaire et de contact. Donc du coup, j'étais un peu coincé entre aucune relation presque amicale ou connaissance ici en France, et de l'autre côté, comme tu viens de dire, les réseaux sociaux n'étaient pas assez développés, n'existaient même pas à l'époque, et du coup, j'ai coupé le lien à contre-cœur, bien sûr, avec mes amis de là-bas. Mais au fur et à mesure des années, j'ai fait un cercle d'amis, surtout à partir des camarades de fac de Bordeaux, où j'ai fait ma licence de lettres modernes. Et en parallèle, il y a eu en 2006 la création de Facebook, sa commercialisation en 2008. Donc j'ai commencé à créer un compte Facebook et retrouver par les algorithmes des amis d'Égypte ou du collège ou de la fac petit à petit. Mais ça a pris plusieurs années.
Il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis. Déjà, les amis de la fac, donc de Bordeaux, donc tu les as rencontrés quand les réseaux n'existaient pas. Donc c'est une démarche personnelle d'aller les rencontrer, de créer des liens aussi. C'est comme quand on est à l'école. On fait en sorte de s'entourer parce que sinon c'est un peu long les études. Ces personnes-là, est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en lien avec eux? Est-ce que c'est des amis que tu considères proches ou c'est des connaissances, des personnes que tu as perdu de vue? Comment ça s'est passé avec eux particulièrement?
Oui, effectivement, c'est la première expérience d'amitié physique parce qu'on était sur les bancs de la fac et on révisait ensemble. Il m'aidait beaucoup parce que j'ai découvert un système universitaire ou scolaire complètement différent d'une autre, et du coup j'avais certaines difficultés, etc., etc. En fait, ce cercle d'amis, tant que je vivais à Bordeaux, on a essayé de garder contact, de se voir de temps en temps, mais avec le temps, même à la fin de mon séjour à Bordeaux, chacun a pris une direction différente, aussi bien géographique que socio-professionnelle. Du coup, les rencontres se faisaient de plus en plus rares, mais j'ai gardé contact par téléphone, par WhatsApp, par Facebook. Actuellement, il n'y a qu'une seule personne ou une seule fille de parmi les 4-5 avec laquelle je suis toujours en contact, bien sûr de manière espacée, mais on se prend des nouvelles et elle me donne des nouvelles des autres parce que je ne suis plus en contact direct avec elle à cause de chacun habite dans un endroit, une région différente de France, et surtout les occupations personnelles et familiales qui ne sont plus les mêmes quand on était à la fac, on va dire dans l'insouciance totale des étudiants.
Est-ce que pour toi, c'est impossible d'être à la fois investi dans sa vie de famille et à la fois être investi dans des relations amicales ?
Au contraire, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est-à-dire, en fait, j'avais l'impression que la famille et ensuite les enfants vont remplir ce lacune. Mais je me suis rendu compte au fil des années qu'on a toujours envie des amis. J'ai une petite hypothèse que l'être humain a besoin de trois axes parallèles. L'axe familial, c'est-à-dire les parents et les frères et sœurs, l'axe conjugal et amical. Donc, moi, ils sont irremplaçables. Il faut avoir les trois en même temps. Par exemple, avec mon épouse, il y a des choses qu'elle peut pas, sur lesquelles elle peut pas m'aider. Ou bien, pour elle, ils sont pas, on va dire, visibles. Donc, j'ai envie d'un ou d'une amie avec laquelle, ou avec lequel, je vais discuter sur ces projets. Peut-être pas forcément pour me donner des solutions, mais au moins de partager une sorte d'expérience. Donc, au contraire, moi, je vois autour de moi les hommes ou les femmes mariés. On souffre un peu parce qu'ils sont très prises dans leurs occupations familiales et obligations des enfants, du foyer, etc. Ils ont malheureusement pas le temps et la marge de sortir avec des amis.
Et aujourd'hui, dans cet axe de l'amitié, tu en es? Parce que quand tu m'as contacté, tu m'as dit que justement, toi, aujourd'hui, t'avais très peu d'amis autour de toi. Qui est-ce qui t'apporte ce troisième soutien de l'amitié dans les trois axes dont tu parles?
Pas grand-chose, malheureusement. Je suis à découvert, comme le compte bancaire. Je suis en rouge parce que, naïvement peut-être, j'ai pensé que au fur et à mesure de travailler ici, d'habiter dans plusieurs régions, plusieurs villes, je vais éventuellement créer des amis. Mais en fait, c'était l'inverse. C'est au fil des années que je me suis rendu compte qu'il y a 15 ans, par exemple, en France, j'avais beaucoup plus d'amis, étudiants et autres, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment pas grand-chose. Ça se passe pas grand-chose à l'axe de l'amitié qui me chagrine, parce qu'il y a ce manque, et je t'ai dit que cet élément ou cet axe est irremplaçable par les autres, parce que Tu peux te dire que tu as une vie familiale ou une vie professionnelle, même avec les collègues. Non, je pense pas que ce sont les mêmes discussions qu'on peut avoir dans les trois cases, si on peut le dire. Paradoxalement et étonnamment même, au fil des années en vivant en France, je perdais des amis parce que chacun est parti dans une ville différente. Mais même certains qui sont partis au Canada sont revenus dans leur pays d'origine ou à avoir d'autres, on va dire, perspectives professionnelles. On garde plus de contact physique. Donc parce que l'amitié, pour moi, il faut le contact physique. C'est ça qui alimente et approfondit l'amitié.
Est-ce que du coup, c'est difficile d'arriver à trouver des amis sur qui compter quand on arrive comme ça à 22 ans en France, que ben chacun a déjà ses cercles de construit autour d'eux? Est-ce que c'est une difficulté pour toi, ou est-ce que t'as réussi à te trouver des cercles, mais juste vous avez pas ensemble réussi à les entretenir, ces amitiés-là?
Non, c'est plus la deuxième option, parce qu'il y a toujours des bonnes personnes bienveillantes sur lesquelles tu peux tomber n'importe quel moment de ta vie. Mais c'est effectivement le cours de la vie qui fait que chacun est muté. Donc du coup, garde bien sûr contact, comme je dis, avec les moyens de communication, mais rien ne remplace la rencontre physique.
Je te coupe juste ici, à ce moment-là, au milieu de mon interview avec Ahmed. J'ai voulu savoir, en fait, à ce moment-là, s'il avait pu se faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances avec les parents d'élèves, puisque maintenant ses enfants vont à l'école, donc c'est des personnes qu'il fréquente. Mais là encore, il se confronte à une barrière sociale qui passe pas le cap de l'amitié à ses yeux. Et est-ce que toi, tu partages la même définition que lui de l'amitié? N'hésite pas, en tout cas, à me le dire, à me faire un petit retour sur cet épisode, et je te laisse avec la suite. Pour revenir à tes amis en Égypte, qu'est-ce qu'ils t'apportaient à ce moment-là quand tu étais en Égypte, en termes de sentiments de sécurité, d'apaisement? On va en parler un peu après. Qu'est-ce qu'ils t'apportaient, eux, que tu n'as peut-être pas retrouvé ici en France?
La compréhension.
Est-ce que tu parlais pas français en arrivant ici?
Non, si, j'ai fait une licence. La compréhension émotive, okay, et sentimentale. C'est pas une question de langue, mais une question de vocabulaire, culture, arrière-plan, éducation, enfin plein de choses. Donc la compréhension et les conseils, parce que les gens en France ou en Belgique, les gens hésitent à te donner conseils, ou bien ont peur que leur conseil n'est pas adapté.
T'as des exemples concrets de situations que t'as pu vivre comme ça?
Par exemple, pour choisir un boulot ou entre deux candidatures ou deux villes différentes. Si par exemple je connais un ami ou une amie qui est de cette ville ou qui a déjà vécu dans cette ville, il peut te parler sur sa propre expérience. Mais en fait, au moment de conseil ou d'orientation, il reste toujours neutre. Et ça n'avance pas le débat, parce qu'on revient toujours à la case de départ. Peut-être parce que c'est une sorte de responsabilité, mais c'est toi qui demandes conseil. Donc du coup, c'est toi qui en as besoin. Et tu vas bien sûr pas l'appliquer à la lettre, mais au moins en profiter un peu. Ah, ça te donne une idée, mais là ça reste un peu flou, j'ai l'impression.
Tout à l'heure, t'as parlé des réseaux sociaux et qui t'ont permis de renouer un peu des liens avec ces amitiés perdues que tu pouvais avoir en Égypte. Est-ce que quand Facebook est arrivé, ça t'a redonné de l'espoir de retrouver du lien avec ces personnes que t'avais quittées auparavant?
Oui et non, parce que je savais pas si c'est arrivé de la même vitesse là-bas et si les jeunes se sont adhérés au même degré qu'ici ou pas. Est-ce que telle ou telle personne que je connais physiquement a un compte ou pas? Enfin, c'est arrivé vraiment très progressivement que t'as trouvé par hasard un, donc qui te donne les coordonnées ou les connaissances, la connaissance de l'autre, etc., etc. Enfin, il y a deux remarques. Entretenir des amitiés qu'on a déjà physiquement par le biais de réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose que de l'entretenir toujours physiquement. Le deuxième aspect, c'est que ces personnes, quand je les retrouvais après une certaine période de perdition ou de perte de contact, ont changé. Donc ce ne sont pas exactement les mêmes personnes que tu connaissais à 17,
justement,
à 18 ans.
Est-ce que ça t'a pas donné un peu un faux espoir, Facebook, de te dire je vais renouer du lien, et en fait c'est juste voir la vie des gens en surface?
Oui, ça c'est arrivé avec, on va dire, un certain nombre de ces cercles d'amis. Oui, tu es content au début de les retrouver, tu les rajoutes, etc. Au fur et à mesure des discussions, tu vois que on parlait plus la même langue, il n'y a plus la même compréhension, parce qu'ils ont évolué dans un sens, tu as évolué vers un autre. Ou bien, l'ajout ou l'amitié reste toujours superficie, c'est-à-dire seulement ils te donnent des félicitations à ton anniversaire quand Facebook le font.
Le rappel.
Le rappel, une notification et inversement. Et par exemple, pendant plusieurs années, ça m'est arrivé, on s'est jamais échangé un seul mot. Donc du coup, récemment, il y a quelques mois, j'ai commencé à filtrer vraiment avec les personnes depuis plusieurs années. J'ai échangé pas un mot et ça sert à rien d'avoir un bon chiffre en termes d'amitié Facebook alors que ce sont des personnes vraiment dans 4-5 ans d'échanger pas un mot. Ça sert à rien, très sincèrement. Mais ça n'empêche que parmi ce cercle assez large, ce qui était plutôt des camarades qui sont devenus des amis, etc., il y a 2-3 qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, on va dire, jusqu'à maintenant. Donc ça remonte à 20-25 ans de connaissance et d'amitié.
Oui, donc t'es quand même encore un petit peu entouré, même si c'est pas des gens que tu vois régulièrement en physique, on va dire.
Pas du tout. Pas du tout, parce que même la dernière visite en Égypte en 2019, ça c'est aussi une sorte de désallusion. J'ai annoncé sur Facebook que j'arrive de telle date à telle date, voici mon numéro égyptien ou ma ligne. J'ai essayé de contacter certains, soit ils étaient en déplacement, soit ils étaient à la plage ou autre. Donc pendant un mois de présence, je n'ai réussi qu'à revoir 4-5. Sur 15 que j'ai contacté avant le voyage.
Et ça faisait combien de temps que tu n'y étais pas allé
10 ans.
Ah ouais. Oui, c'est pas comme si tu venais tous les ans et qu'ils disaient « Bon, bah, l'année prochaine, je rate pas le coche, quoi. »
Bah, en fait, je me suis dit « C'est l'inverse, puisque après une très longue absence, on a envie de se revoir, de se rencontrer. » Mais ça, c'est aussi une des allusions, je pense, de la vie de manière générale. Quand on avance dans l'âge, on voit les choses à leur vraie taille, à leur vraie importance, à leur vraie définition et nature.
Et ces personnes que tu as pu revoir en Égypte, donc qui étaient tes amis avant et que là, t'as revu, est-ce que tu pouvais tout dire avec ces personnes-là? Comment c'était les retrouvailles, justement? Parce qu'après 10 ans sans s'être vu et juste en échangeant de temps en temps sur Facebook, oui, plus, en échangeant juste de temps en temps sur Facebook... C'était facile de se livrer ou il y avait toujours ce problème de communication?
Non, c'était comme si on s'y quittait hier. Vraiment. Et je pense que c'est pour cela, ce sont les 3-4 qui étaient le plus proches et on était plus à de proximité. C'est pour cela ils ont fait tout pour se libérer et se rencontrer. Alors que les autres, bien sûr, peut-être des obligations, mais je suis un peu gourmand. Il fallait quand même faire un effort parce que je suis pas là tous les jours. Mais c'était très fluide. Bien sûr, il y a quelques petits écarts au niveau... quand on aborde les sujets de la géopolitique, de la vie politique, surtout ce qui m'intéresse beaucoup et intéresse aussi mes amis. Donc ce n'est pas la même définition. Mais à part ça, personnellement, c'était très, très fluide. On voulait quand même d'abord prendre des nouvelles, parce qu'ils se sont tous mariés pendant cette décennie ou cette quinzaine d'années d'absence. Ils ont eu des enfants, donc moi je les ai quittés... des petits jeunes diplômés, mais j'avais envie de découvrir d'abord leur vie de papa. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la responsabilité? Et tu te souviens quand on était lycéens, enfin, on s'en foutait, si tu veux, de la vie, et tu vois comment nos parents se fatiguaient avec nous pour les dépenses, etc., tu vois. Et là, c'était ce retour qui m'intéressait beaucoup, et je les retrouvais tous en même état que moi, c'est-à-dire... On reste toujours universel, on reste toujours... L'être humain est un peu partout la même chose.
En prenant du recul et en écoutant le témoignage d'Ahmed, je suis hyper reconnaissante, en fait, envers mes amis pour l'histoire qu'on construit encore au quotidien aujourd'hui, malgré la distance, puisque moi, je vis pas dans la même ville que mes amis. Et en fait, je me rends compte que tout est possible en amitié, il faut seulement trouver la bonne recette, celle qui nous convient. Donc j'espère que toi, tu l'as trouvée aussi auprès de tes amis. Toi, aujourd'hui, t'es papa de deux petits garçons. Qu'est-ce que tu vas avoir envie de leur transmettre sur les valeurs de l'amitié? Qu'est-ce que c'est pour toi? Enfin, t'as dit qu'il y avait ce socle qui était important, il y avait les trois socles, donc dans les trois, il y a l'amitié. Qu'est-ce qui est important dans l'amitié que tu vas avoir envie de leur transmettre?
Un peu plus tard, ils sont encore 5 ans et demi et 2 ans et demi, une valeur à laquelle je suis très attaché, et ça vient aussi de mon père. Et c'est quelqu'un de très sociable, il avait 2-3 amis qui l'ont accompagné pendant toute sa vie, et inversement, lui aussi, il était toujours là dans leur... moments difficiles, mais aussi de leurs moments de joie, de célébration. Donc j'ai vécu ça, j'ai assisté à cela. J'avais des bons amis, mais le départ du pays n'a pas permis de poursuivre. J'ai envie de leur dire que d'abord qu'ils soient eux des bons amis pour avoir éventuellement le même résultat ou pas. Donc,
et ça, c'est quoi être un bon ami alors?
C'est être à l'écoute, compréhensif, C'est toujours, on revient toujours à la compréhension. Pas forcément de donner de solutions, mais parce que quand, pourquoi t'as envie d'un ami ou d'une amie? Pour lui parler avec des choses que tu peux pas aborder soit avec tes collègues ou ton supérieur au travail, soit ni avec tes parents, parce que c'est peut-être trop délicat, c'est peut-être trop personnel, c'est peut-être financier, et t'as pas envie de qu'ils t'aident financièrement de manière spontanée, parce que ce sont tes parents, tu vois. Donc c'est toujours, si tu veux, j'ai envie de dire, une zone d'ombre, une zone grise de nos droits entre la famille d'un côté et le travail de l'autre côté. C'est ça, l'amitié, qui se trouve à cheval entre les deux, mais aussi ni l'un ni l'autre, ni gauche ni droite, comme...
C'est au centre.
Voilà, on marche.
Et ça déborde pas. Tu disais que toi, t'avais perdu un peu ces relations-là, elles se sont dilatées, quoi. Où est-ce que tu retrouves ton équilibre si, pour toi, c'est un des socles principaux, l'amitié, et qu'il est un peu... et que t'as découvert, comme tu l'as dit tout à l'heure?
Difficile question, je trouve pas. Ça reste refoulé. Ça reste un manque, très sincèrement. Parce que j'ai essayé, quand j'ai un problème ou un souci, ou même une réflexion avec, que je voulais partager avec ces amis très proches, j'ai essayé de le solliciter, mais soit ils me répondent quelques jours plus tard, soit ils répondent pas du tout. Après plusieurs années de ce système, je me suis dit, c'est quand même, ça reste toujours l'amitié, c'est la réciprocité est toujours une base fondamentale. Si d'un seul sens, à un moment donné, tu es complètement lassé. Donc je trouve pas, malheureusement, l'équilibre pour l'instant. Si t'as un ou une amie proche, il faut pas que tu le fais attendre beaucoup, parce que là, ça lasse vraiment, et ça installe de l'ennui, et ça remplace l'amitié par autre chose, ou rien du tout.
On garde le conseil, alors. Et pour parler de l'amitié dans la culture arabe, il y a cette pyramide de l'amitié qui existe, et qui fait qu'en fait, on peut mettre le mot amitié sur plein de relations sociales qu'on peut avoir au quotidien. En France, il y a cette différenciation entre copains, amis. C'est vrai que copains, c'est des personnes qui sont un peu plus éloignées. Et quand on est amis, on est plus proche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? C'est vrai que c'est une pyramide en beaucoup de marches. On part de où sur cette pyramide de l'amitié arabe? Et on arrive jusqu'où, en fait?
Juste une parenthèse de mes études et en tant qu'enseignant de la langue arabe. Cette langue est une langue très mathématique, très nuancée, très précise. Par exemple, le lion a plus de 500 mots pour dire lion. Tout dépend.
Dans la langue arabe?
Oui, dans la langue arabe.
Ah, oh.
Et le miel, 300. Chameau, 200. Tout dépend de la taille, de l'origine, de l'alimentation, de l'âge, de
la... Ah oui, donc je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de définitions sur l'amitié en arabe.
Bien sûr, c'est centaines des vocabulaires ne sont plus utilisés actuellement, mais ils sont toujours dans l'héritage poétique ou de la littérature médiévale ou très ancienne. Juste ça, c'est le cadre général pour que vous expliquiez aux éditeurs et aux auditrices pourquoi autant de marches ou d'échelles dans l'amitié. Et la même chose s'applique, mais dans une moindre mesure, heureusement. Sinon, on allait faire un épisode de 5h30. Il y a la pyramide qui constitué de quinzaines d'échelles qui commencent par le camarade, quelqu'un du même âge que nous. Donc ça commence par ça. L'âge, c'est le critère principal de la rencontre. Et ça monte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le mot ami, tel qu'on l'entend en français, intervient à la 9e échelle. Donc il y a 8 qui sont pas encore des amis, mais c'est une sorte d'introduction.
Mais c'est ce que tu disais, en fait, que même ton voisin de bus, finalement, en Égypte, tu vas en parler comme d'un ami, alors que tu l'as croisé peut-être 10 minutes, et puis il t'a indiqué le chemin, quoi.
En fait, tu vas, son statut officiel, entre guillemets, c'est ton voisin de bus, ou de car, ou de voyage, mais tu peux avoir une discussion amicale avec lui, alors que vous allez vous quitter, et vous allez peut-être ne plus vous revoir. Et après l'amitié, on monte encore en sélection, en nuance, jusqu'à le Graal de l'amitié, qui est l'âme sœur ou l'ami intime. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui te ressemble beaucoup, 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 comme si vous étiez des jumeaux ou des jumelles.
Ouais, ouais, ouais.
Spirituel, bien sûr.
Alors, cette pyramide-là, je la partagerai sur les réseaux sociaux dans les jours qui vont suivre la publication de cet épisode. En ayant cette définition-là de l'amitié dans le monde arabe, quelle définition tu donnes pour l'amitié en France? Parce que là, il y a combien d'étapes?
15
étapes. En France, il n'y en a qu'une, non? Comment tu définirais l'amitié, en tout cas dans la culture française?
En français, vous dites ami, ami proche et camarade, ce n'est pas la même chose. Il y a certaines nuances, la langue française est très nuancée aussi, très métaphorique, très jolie, mais il y a moins.
pour en revenir sur l'amitié et toi, ton propre rapport à l'amitié, aujourd'hui, est-ce que tu considères quand même que t'es heureux ou il te manque ce pilier-là, cette force-là pour être pleinement épanoui dans ta vie? Comment est-ce que tu vois la suite par rapport à ça, justement?
Il manque encore quelques amis. Bon, on est toujours... l'être humain, de manière générale, est toujours maximaliste, veut tout, que tout va bien, etc. Bon, on est sur la planète Terre, tout n'est pas parfait, heureusement et malheureusement. Sinon, on n'aurait pas de perspective de recherche ou d'évolution dans la vie. Si on a tout autour de nous, enfin, on se contente de ce qu'on a, on bouge plus. D'où aussi l'importance du podcast, parce que je me suis ouvert depuis moins d'un an sur toute une communauté de podcasteuses et podcasteurs. Je suis devenu ami ou une connaissance proche avec certains et certaines. Et ça commence à me compenser un peu, petit à petit. Je vais rencontrer certains physiquement. Donc là, ça va encore confirmer l'amitié ou pas. Je pense que oui, puisqu'on est arrivé à ce point-là. Le plus important, c'est la durabilité, l'entretien de la relation plus tard. Ça, c'est quelque chose que difficile à prévoir ou à contrôler, puisqu'il y a des aléas de la vie, mais on essaie quand même de se voir de temps en temps. Et je reste optimiste pour l'avenir, parce que, en fait, j'ai l'impression, enfin, en discutant avec toi, ça m'arrive l'idée que j'ai une responsabilité dans ça. Tu peux pas rester les bras croisés, attendre que les amis viennent te chercher.
En fait, c'est tous les endroits de rencontre que tu peux avoir au quotidien qui peuvent servir aussi. Tu vois, là, on enregistre, tes enfants sont partis jouer au parc. Et ben en fait, j'imagine qu'il y a d'autres parents qui emmènent leurs enfants à ce moment-là, et quand les enfants jouent, bah ça, c'est aussi des moments de rencontre et de discussion. Alors oui, c'est peut-être pas une amitié profonde dans les heures à venir, mais malgré tout, c'est des relations sur lesquelles petit à petit, il peut y avoir des choses qui se construisent, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose que t'envisages, mais
oui, tout à fait.
On dirait qu'on parle un peu d'une recherche d'emploi, mais c'est un peu ça.
C'est un peu ça. T'as tout à fait raison, parce qu'on s'est rendu compte toutes et tous après le premier confinement qui était très strict, que les relations humaines a un aspect, une importance très importante pour nous, parce que on avait tout, on avait une connexion internet, des facilités dans la vie, un confort, un appartement, ou même certains qui avaient des maisons, mais certains qui étaient tristes, qui avaient des problèmes dépressifs, ne serait-ce qu'un sentiment de solitude, alors que t'as tout, t'as les chaînes à la télé, t'as internet, tu peux faire plein de choses à distance, mais à distance. Donc on s'est rendu compte que l'importance des liens sociaux, dont on était privé pour un moment donné, suspendu, mais pour moi, ça a rendu ça plus important qu'avant.
Très bien, merci. Juste si tu veux dire deux mots pour parler de ton podcast.
28 lettres à l'arbre, mon podcast, c'est un, comme on le définit souvent, c'est un moment suspendu, deux fois par mois, le deuxième mercredi et le dernier mercredi. En fait, l'idée, c'est de pas donner du tout des cours ou de l'alphabet ou décryptage des textes, mais plutôt, si tu veux, débalayer les difficultés ou les idées reçues sur l'apprentissage de cette langue. Ça s'adresse aux francophones qui apprennent l'arabe, mais aussi aux francophones qui sont curieux de l'apprendre, mais ils appréhendent cet apprentissage. C'est une langue un peu bizarre qui s'écrit de droite à gauche, l'alphabet n'est pas le même, les sons ne sont pas le même, etc. Là, dans chaque épisode, on prend une des difficultés et on le décrypte, on essaie de le déconstituer petit à petit avec des exemples concrets issus de mon expérience de cette année de prof de la langue arabe aux francophones dans les universités françaises.
Très bien, et ben en tout cas on invite tout le monde à aller écouter ça. Merci à toi d'avoir bien accepté de témoigner sur Friendship.
Merci Solène de ta proposition, et j'étais vraiment très très ravi de parler amitié avec toi.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship, et si tu aimes le podcast, parle de Friendship autour de toi, partage ton épisode préféré sur Instagram, je me ferai un plaisir de le repartager. Et puis nous, on se dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode, et à très vite dans Friendship.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.